En ligne, j'ai Sophie Deraspe, celle qui est derrière le documentaire « Gay Girl in Damascus » dit Amina Profile. Bonjour Sophie, ça va bien?
Bonjour, ça va bien, merci.
Donc, ben, premièrement, je voudrais que vous disiez le documentaire d'Amina Profile, ça relate quelle histoire?
En fait, c'est une histoire qui s'est passée en 2011, Amina étant une activiste syrienne gay, ouvertement gay, qui tenait un blog appelé « The Gay Girl in Damascus » qui a eu un assez grand succès à ce moment-là. Elle a été, et dès lors où elle a été suivie par des médias internationaux importants comme The Guardian à Londres, elle a vraiment gagné en notoriété, puis on était vraiment au début de la révolution syrienne. Moi, le documentaire, je pars de l'angle de sa petite copine. En fait, elle avait rencontré Sandra Bagaria, une Montréalaise. Elle s'était rencontrée en ligne et assez vite, leur relation est devenue érotique, amoureuse, tout autant qu'intellectuelle. Et puis, 6 mois après le début de leur rencontre, alors que Amina est en plein hype médiatique, elle se fait kidnapper. Et à partir de là, bien, il y a tout un bras-le-bas de combat pour savoir où est-ce qu'elle est, la libérer, autant des individus, des ambassades, des médias. Il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent. Et puis, pour découvrir finalement que Amina n'est pas tout à fait qui elle prétendait être. Donc, c'est une histoire vraiment de notre époque avec des enjeux d'identité, aussi de comment est-ce que les médias couvrent d'autres parties du monde dans notre époque où tout va si vite, où personne ne veut rester derrière, même les médias traditionnels, pas tous les médias en ligne. Et aussi, mais ça questionne notre façon d'entrer en relation personnelle aussi via cette relation amoureuse que Sandra Bagaria a conduit avec Amina pendant plus de 6 mois.
Puis, vous la connaissez, une des actrices principales de ça, ben en fait, la petite amie de Amina, c'est une de vos amies.
Oui, je la connaissais, oui.
Donc, comment vous êtes venue là, à vous dire, OK, cette histoire-là, il faut que je fasse un film avec ça. Ça a été quoi l'élément déclencheur?
Bien, en fait, c'est que Sandra a communiqué avec nous beaucoup pendant les événements. Puis on le vivait vraiment comme un thriller. On était en plein cœur de l'histoire. On voyait Sandra, elle se faisait appeler par l'ambassade américaine, elle se faisait rechercher par le Mossad, qui est l'agence aussi de sécurité israélienne. Enfin, elle était dans le milieu d'un truc on pouvait croire film thriller, film d'espionnage. C'est vraiment un polar international. Mon amie, dans le milieu de ça, vraiment, il y avait un film à faire en plus de toutes ces questions que je viens juste de mentionner, là, qui sont très, très contemporaines, qui questionnent vraiment notre monde, comment les médias le couvrent, comment les relations se font entre les gens, mais aussi comment l'information circule. Sur le coup, Sandra était tellement dans un tourbillon émotif intense. Son histoire à ce moment-là, le film se termine pas comme ça, mais son histoire à elle, à ce moment-là, se termine par une trahison, puis une honte assez généralisée aussi d'être celle qui à prime abord, d'un premier coup d'œil, peut avoir semblé très naïve, d'avoir tombé dans le panneau, d'avoir tombé amoureuse d'Amina, mais quand on approche la chose, c'était tellement complexe, c'était tellement bien ficelé et il y avait tellement aussi de médias pour donner une crédibilité à Amina qu'on voit bien que Sandra n'est pas cette personne vraiment naïve qui tombe dans le premier panneau, la première trappe qui se présente sous ses pieds. Donc, c'est comme quoi, ça peut arriver à beaucoup de gens.
Est-ce que le fait que Sandra, ben, t'sais, ce soit quelqu'un qui est proche de vous, qu'elle était dans un tourbillon émotif, est-ce que ça a été plus facile ou plus difficile pour vous de réaliser le documentaire à cause de ça?
Ben, en fait, ça me donne un accès unique sur l'histoire.
pourquoi personne ne fait de documentaire à date là-dessus alors que c'est un sujet en or? C'est parce que justement l'accès était quasi impossible. Les gens, beaucoup ne veulent pas nécessairement parler de cette histoire parce que c'est il y a beaucoup de gens dont l'image est ternie dans ça, soit des individus comme des institutions. Mais le fait d'aller par une des victimes principales de l'arnaqueur, si on veut, m'a donné un accès vraiment privilégié à un paquet de gens. En faisant le film aussi, on a découvert à quel point, et ça je le savais pas avant de faire le film, à quel point les Syriens avaient été touchés par cette histoire également. Ça nous a donné accès au... faut voir le film, mais à la vérité derrière Amina. Donc c'est ça, l'accès qu'on a là.
Puis le tournage
qui est privilégié.
Ouais, puis le tournage, il vous a fait aussi beaucoup voyager. T'sais, vous êtes allé à San Francisco, Istanbul, Israël entre autres, pour rencontrer plein d'acteurs qui ont eu un impact dans cette histoire-là ou qui ont témoigné devant votre caméra. Ça a été quoi la rencontre la plus marquante que vous avez faite?
Je dirais c'est de rencontrer des Syriens parce que une fois que la vérité est sortie de qui est derrière le personnage d'Amina, il y a plein de voix qu'on n'a pas entendues. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement en Syrie. Moi, je savais que Amina avait été un personnage très sexy, très très intéressant pour les médias et pour une audience, disons, occidentale, mais je savais pas ce qui s'était passé au Moyen-Orient. Puis ça a été une révélation assez choquante, touchante en même temps, qu'on voit réellement dans quelle situation sont ces gens-là, ceux qui essaient de passer le mot hors de leur pays, au péril de leur vie et celle de leur famille aussi, parce que lorsque quelqu'un est contre le régime ou contre le pouvoir en place, après ça, c'est leur famille aussi qui devient menacée, parce que tous les outils sont utilisés pour les faire taire. Donc, ça a été assez marquant comme rencontre.
Puis aussi, tu sais, après avoir été sorti de cette histoire-là, après avoir fait le montage et tout ça, le film, il a laissé quelle marque sur vous?
C'est un film qui fonctionne internationalement parce qu'il touche plein de gens à travers le monde. Donc, c'est sûr que ça, de rejoindre un public comme ça, c'est satisfaisant. En même temps, je pense qu'il y a des messages importants, donc on est content de les partager avec et c'est vrai que les gens aux États-Unis, par exemple, n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations que des gens en Turquie qui sont les voisins immédiats de ce qui se passe au Moyen-Orient et puis qui sont directement touchés. Nous, on l'est d'un peu plus loin, mais en même temps, on est quand même la révolution syrienne laisse pas vide que ça a laissé, le fait que les pays occidentaux ne s'y soient pas engagés, ben ça a donné la place à l'État islamique. Donc et maintenant ben on se sent de plus en plus concerné aussi par ce qui se passe dans cette région du monde.
Finalement, même si l'entrevue en soi est un argument de taille pour inviter les gens à venir voir votre film, ce serait quoi votre dernier mot à eux pour leur dire ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez voir?
Ben, en fait, moi, comme cinéaste, c'était un sujet exceptionnel à couvrir parce que il y a à la fois l'aspect personnel, il y a l'histoire de Sandra et il y a un aspect international, universel, qui est comment les médias couvrent ce qui se passe dans d'autres pays de nos jours. Nous utilisons tous les réseaux sociaux, que ce soit pour tomber en amour, pour entretenir des relations avec différentes personnes dans différents endroits dans le monde, ou simplement pour s'informer de ce qui se passe ailleurs. On est tous concernés.
Mais merci beaucoup, Sophie Deraspe, directrice du documentaire The Amina Profile, qui sera présenté ce samedi à Toronto à The Bloor's Hot Dog Cinema.
Merci.